14. Quelques heures après, ils étaient au bal chez le riche musicien Spuella. Trenmore et Stenio rentraient sous la coupole et, du fond de cette rotonde vide et sonore, ils promenaient leurs regards sur les grandes salles pleines de mouvements et de bruit. Les danses tournoyaient en cercles capricieux sous les bougies pâlissantes. Les fleurs mouraient dans l'air rare et fatigué. Les sons de l'orchestre venaient s'éteindre sous la voûte de marbre et dans la chaude vapeur du bal passaient et repassaient de pâles figures tristes et belles sous leurs habits de fête. Mais au-dessus de ce tableau riche et vaste, au-dessus de ces tons éclatants adoucis par le vague de la profondeur et le poids de l'atmosphère, au-dessus des masques bizarres, des parures étincelantes, des frais quadrilles et des groupes de femmes jeunes et rieuses, au-dessus du mouvement et du bruit, au-dessus de tout, s'élevait la grande figure isolée de Lélia. Appuyée contre un cippe de bronze antique sur les degrés de l'amphithéâtre, elle contemplait aussi le bal. Elle avait revêtu aussi un costume caractéristique, mais l'avait choisi noble et sombre comme elle. Elle avait le vêtement austère et pourtant recherché. La pâleur, la gravité, le regard profond d'un jeune poète d'autrefois, alors que les temps n'étaient poétiques et que la poésie n'était pas coudoyée dans la foule. Les cheveux noirs de Lélia, rejetés en arrière, laissaient à découvert ce front où le doigt de Dieu semblait avoir imprimé le sceau d'une mystérieuse infortune, et que les regards du jeune Stenio interrogeaient sans cesse avec l'anxiété du pilote attentif au moindre souffle du vent et à l'aspect des moindres nuées sur un ciel pur. Le manteau de Lélia était moins noir, moins velouté que ses grands yeux couronnés d'un sourcil mobile. La blancheur mate de son visage et de son cou se perdait dans celle de sa vaste fraise et la froide respiration de son sein impénétrable ne soulevait pas même le satin noir de son pourpoint et les triples rangs de sa chaîne d'or. « Regardez Lélia, » dit Trenmore avec un sentiment de calme admiration, tandis que le cœur du jeune homme se précipitait avec violence hors de lui-même. Regardez cette grande taille grecque sous ses habits de l'Italie dévote et passionnée, cette beauté antique dont la statuaire a perdu le moule, avec l'expression de rêverie profonde des siècles philosophiques, ses formes et ses traits si riches. Ce luxe d'organisation extérieure, dont un soleil homérique a seul pu créer les types maintenant oubliés. Regardez, vous dis-je, cette beauté physique qui suffirait pour constater une grande puissance, et que Dieu s'est plu à revêtir de toute la puissance intellectuelle de notre époque. Peut-on imaginer quelque chose de plus complet que Lélia vêtue, posée et rêvant ainsi. C'est le marbre sans tache de Galatée, avec le regard céleste du Tasse, avec le sourire sombre d'Alighieri. C'est l'attitude aisée et chevaleresque des jeunes héros de Shakespeare. C'est Roméo, le poétique amoureux. C'est Hamlet, le pâle et ascétique visionnaire. C'est Juliette, Juliette demi-morte, cachant dans son sein le poison et le souvenir d'un amour brisé. Vous pouvez inscrire les plus grands noms de l'histoire, du théâtre et de la poésie sur ce visage dont l'expression résume tout à force de tout concentrer. Le jeune Raphaël devait tomber dans cette contemplation extatique lorsque Dieu lui faisait apparaître une virginale idéalité de femme. Corinne, mourante, devait être plongée dans cette morne attention lorsqu'elle écoutait ces derniers vers déclamés au Capitole par une jeune fille. Le page muet et mystérieux de Lara se renfermait dans cet isolement dédaigneux de la foule. Oui, Lélia réunit toutes ses idéalités parce qu'elle réunit le génie de tous les poètes, la grandeur de tous les héroïsmes. Vous pouvez donner tous ces noms à Lélia, le plus grand, le plus harmonieux de tous devant Dieu sera encore celui de Lélia. Lélia dont le front lumineux est pur, dont la vaste et souple poitrine renferme toutes les grandes pensées, tous les généreux sentiments, religion, enthousiasme, stoïcisme, pitié, persévérance, douleur, charité, pardon, candeur, audace, mépris de la vie, intelligence, activité, espoir, patience, tout, tout jusqu'aux faiblesses innocentes, jusqu'aux sublimes légèretés de la femme, jusqu'à la mobile insouciance qui est peut-être son plus doux privilège et sa plus puissante séduction. Tout hormis l'amour, hélas, dit Sténio. Il est donc bien vrai, vous n'avez pas nommé l'amour, train de mort. Vous qui connaissez Lélia, vous n'avez pas nommé l'amour. Eh bien, si cela est, vous avez menti. Lélia n'est pas un être complet. C'est un rêve tel que l'homme peut en créer, gracieux, sublime, mais où il manque toujours quelque chose d'inconnu, quelque chose qui n'a pas de nom, et qu'un nuage nous voile toujours, quelque chose qui est au-delà des cieux, quelque chose où nous tendons sans cesse sans l'atteindre ni le deviner jamais, quelque chose de vrai, de parfait et d'immuable. Dieu peut-être, c'est peut-être Dieu que cela s'appelle. Eh bien, la révélation de cela manque à l'esprit humain. Pour le remplacer, Dieu lui a donné l'amour, faible émanation du feu du ciel, âme de l'univers perceptible à l'homme. Cette étincelle divine, ce reflet du Très-Haut, sans lequel la plus belle création est sans valeur, sans lequel la beauté n'est qu'une image privée d'animation, l'amour, Lélia ne l'a pas. Qu'est-ce donc Lélia ? Une ombre, un rêve, une idée tout au plus. Allez, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de femme. Et pensez-vous aussi, lui dit Trenmore sans répondre à ce que Sténio espérait être une question, pensez-vous aussi que là où il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'homme ? Je le crois de toute mon âme, s'écria l'enfant. En ce cas, je suis donc mort aussi, dit Trenmore en souriant, car je n'ai pas d'amour pour Lélia. Et si Lélia n'en inspire pas, quel autre en aurait la puissance ? Eh bien, enfant, j'espère que tu te trompes et qu'il en est de l'amour comme des autres passions. Je crois que là où elles finissent, l'homme commence. En ce moment, Lélia descendit les degrés et vint à eux. La majesté pleine de tristesse qui entourait Lélia comme d'une auréole l'isolait presque toujours au milieu du monde. C'était une femme qui, en public, ne se livrait jamais à ses impressions. Elle se cachait dans son intimité pour rire de la vie, mais elle la traversait avec une défiance haineuse et s'y montrait sous un aspect rigide pour éloigner d'elle, autant que possible, le contact de la société. Cependant, elle aimait les fêtes et les réunions publiques. Elle venait y chercher un spectacle. Elle venait y rêver, solitaire au milieu de la foule. Il avait bien fallu que la foule s'habituât à la voir planer sur elle et puiser dans son sein des impressions sans jamais lui rien communiquer des siennes. Entre Lélia et la foule, il n'y avait pas d'échange. Si Lélia s'abandonnait à quelques muettes sympathies, elle se refusait à les inspirer. Elle n'en avait pas besoin. La foule ne comprenait pas ce mystère, mais elle était fascinée. Et tout en cherchant à rabaisser cette destinée inconnue dont l'indépendance l'offensait, elle s'ouvrait devant elle avec un respect instinctif qui tenait de la peur. Le pauvre jeune poète, dont elle était aimée, concevait un peu mieux les causes de sa puissance, quoiqu'il ne voulût pas encore se les avouer. Parfois, il était si près de la triste vérité, cherchée et repoussée par lui, qu'il éprouvait comme un sentiment d'horreur pour Lélia. Il lui semblait alors que Lélia était son fléau, son démon, son génie du mal, le plus dangereux ennemi qu'il eût dans le monde. En la voyant venir ainsi vers lui, seule et pensive, il ressentit comme de la haine pour cet être qui ne tenait à la nature par aucun lien apparent, sans songer qu'il eût souffert bien davantage l'insensé s'il l'eût vu parler et sourire. « Vous êtes ici, lui dit-il d'un ton dur et amer, comme un cadavre qui aurait ouvert son cercueil et qui viendrait se promener au milieu des vivants. Voyez, on s'écarte de vous, on craint de toucher votre linceul, on ose à peine vous regarder au visage. Le silence de la crainte plane autour de vous comme un oiseau de nuit. Votre main n'est aussi froide que le marbre d'où vous sortez. » Lélia ne répondit que par un étrange regard et un froid sourire. Puis, après un instant de silence, « J'avais une idée bien différente tout à l'heure, dit-elle. Je vous prenais tous pour des morts, et moi, vivante, je vous passais en revue. Je me disais qu'il y avait quelque chose d'étrangement lugubre dans l'invention de ces mascarades. N'est-ce pas bien triste, en effet, de ressusciter ainsi les siècles qui ne sont plus et de les forcer à divertir le siècle présent? Ces costumes des temps passés, qui nous représentent des générations éteintes, ne sont-ils pas, au milieu de l'ivresse d'une fête, une effrayante leçon pour nous rappeler la brièveté des jours de l'homme? Où sont les cerveaux passionnés qui brûlaient sous ces barrettes et sous ces turbans? Où sont les cœurs jeunes et vivaces qui palpitaient sous ces pourpoints de soie, sous ces corsages brodés d'or et de perles? Où sont les femmes orgueilleuses et belles qui se drapaient dans ces lourdes étoffes, qui couvraient leurs riches chevelures de ces gothiques joyaux? Hélas, où sont-ils ces rois d'un jour qui ont brillé comme nous? Ils ont passé sans songer aux générations qui les avaient précédées, sans songer à celles qui devaient les suivre, sans songer à eux-mêmes qui se couvraient d'or et de parfums, qui s'entouraient de luxe et de mélodies en attendant le froid du cercueil et l'oubli de la tombe. « Il se repose d'avoir vécu, dit Trenemore. Heureux ceux qui dorment dans la paix du Seigneur. Il faut que l'esprit de l'homme soit bien pauvre, reprit l'Élia, et ses plaisirs bien vides. Il faut que les jouissances simples et faciles s'épuisent bien vite pour lui, puisqu'au fond de sa joie et de ses pompes, il se retrouve toujours une impression si horrible de tristesse et de terreur. Voici un homme riche et joyeux, un heureux de la terre, qui, pour s'étourdir et oublier que ses jours sont comptés, n'imagine rien de mieux que d'exhumer les dépouilles du passé, de couvrir ses hôtes des livrées de la mort et de faire danser dans son palais les spectres de ses aïeux. « Ton âme est triste, Lélia, » dit Trainemort. « On dirait que, seul ici, tu crains de ne pas mourir à ton tour. » 15. Ce jeune homme mérite plus de compassion, Lélia. Je croyais que vous n'aviez que les grâces et les adorables qualités de la femme. En auriez-vous aussi la féroce ingratitude et l'impudente vanité? Non, j'aimerais mieux douter de l'existence de Dieu que de la bonté de votre cœur. Lélia, dites-moi donc ce que vous voulez faire de cette âme de poète qui s'est donnée à vous et que vous avez accueilli, imprudemment peut-être. Vous ne pouvez plus maintenant la repousser sans qu'elle se brise. Et prenez garde, Lélia, Dieu vous en demandera compte un jour, car cette âme vient de lui et doit y retourner. Si le regard de Dieu s'abaisse assez près de nous pour apprécier quelques différences entre les créatures de ses mains, sans doute le jeune Sténio doit être un des enfants de sa prédilection. N'a-t-il pas mis en lui un reflet de la beauté des anges? Quoi de plus pur et de plus suave que cet enfant? Sa paupière moelleuse qui s'abaisse à chaque instant pour voiler un modeste regard ne semble-t-elle pas appeler les chastes baisers de ces vierges ailées que nous voyons dans nos rêves? Je n'ai point vu de physionomie d'un calme plus angélique, ni de bleu dans le plus beau ciel qui fût plus limpide et plus céleste que le bleu de ses yeux. Je n'ai pas entendu une voix de jeune fille qui fût plus harmonieuse et plus douce que la sienne. Les paroles qu'il dit sont comme les notes faibles et veloutées que le vent confie aux cordes de l'harpe. Et puis, sa démarche lente, ses attitudes nonchalantes et tristes, ses mains blanches et fines, son corps frêle et souple, ses cheveux d'un ton si doux et d'une mollesse si soyeuse, son teint changeant comme le ciel d'automne, ce carmin éclatant qu'en regard de vous répand sur ses joues, cette pâleur bleuâtre qu'un mot de vous imprime à ses lèvres, tout cela, c'est un poète, c'est un jeune homme vierge, c'est une âme que Dieu envoie souffrir ici-bas pour l'éprouver avant d'en faire un ange. Et si vous livrez cette jeune âme au souffle des passions corrosives, si vous l'éteignez sous les glaces du désespoir, si vous l'abandonnez au fond de l'abîme, comment retrouvera-t-elle le chemin des cieux? Ô femme, prenez garde à ce que vous allez faire. N'écrasez pas ce frêle enfant sous le poids de votre affreuse raison. Ménagez-lui le vent et le soleil, et le jour, et le froid, et la foudre, et tout ce qui nous flétrit, nous renverse, nous dessèche et nous tue. Femme, aidez-le à marcher. Couvrez-le d'un pan de votre manteau. Soyez son guide sur le bord des écueils. Ne pouvez-vous être son ami, ou sa sœur, ou sa mère? Je sais tout ce que vous m'avez dit déjà, je vous comprends, je vous félicite, mais puisque vous êtes heureuse ainsi, autant qu'il vous est donné de l'être, ce n'est plus de vous que je m'occupe, c'est de lui qui souffre et que je plains. Voyons, femme, vous qui savez tant de choses ignorées de l'homme, n'avez-vous pas un remède à ces maux? ne pouvez-vous donner aux autres un peu de la science que Dieu vous a donnée? Est-il en vous de faire le mal et de ne pouvoir faire le bien? Eh bien, Lélia, s'il en est ainsi, il faut éloigner Sténio ou le fuir. 16. Éloigner Sténio ou le fuir? Oh, pas encore. Vous êtes si froid, votre cœur est si vieux, ami, que vous parlez de fuir Sténio comme s'il s'agissait de quitter cette ville pour une autre, ces hommes d'aujourd'hui pour les hommes de demain, comme s'il s'agissait pour vous, Trainmore, de me quitter, moi, Lélia. Je le sais, vous avez touché le but, vous avez échappé au naufrage, vous voilà au port. Nulle affection en vous ne s'élève jusqu'à la passion, rien ne vous est nécessaire. Personne ne peut faire ou défaire votre bonheur. Vous en êtes vous-même l'artisan et le gardien. Moi aussi, Trainmore, je vous félicite, mais je ne vous comprends pas. Je vous devine tout au plus. J'admire l'ouvrage régulier et solide que vous avez fait, mais c'est une forteresse que cet ouvrage de votre raison. Et moi, femme, moi, artiste, il me faut un palais. Je n'y serai point heureuse, mais du moins, je n'y mourrai pas. Dans vos murs de glace et de pierre, il ne me resterait pas un jour à vivre. Non, pas encore, non. Dieu ne le veut pas. Est-ce qu'on peut devancer l'accomplissement de ses desseins? S'il m'est donné d'atteindre où vous êtes, du moins, j'y veux arriver mûr pour la sagesse et assez sûr de moi pour ne pas regarder en arrière avec douleur. Je vous entends d'ici, faible et misérable femme, dites-vous, tu crains d'obtenir ce que tu demandes souvent. Je t'ai vu aspirer au triomphe que tu repousses. Eh bien, va, je suis faible, je suis lâche, mais je ne suis ni ingrate ni vaine. Je n'ai point ces vices de la femme. Non, mon ami, je ne veux point briser le cœur de l'homme, éteindre l'âme du poète. Rassure-toi, j'aime Sténio.